Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto.
Un accord qui ne règle rien. La tension reste très vive au Haut-Karabakh, deux jours après la signature d'un cessez-le-feu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, deux pays qui se disputent cette région depuis des années. Une première guerre avait fait 30 000 morts dans les années 90. Les combats très meurtriers ont repris depuis six semaines. On parle de 1 300 morts côté arménien, selon un bilan partiel. Moscou a donc réussi à y mettre fin avant-hier, mais les Arméniens ont abandonné beaucoup de terrain et ils sont très mécontents, y compris contre leur premier ministre qu'ils accusent de capitulation. Bonsoir Élise Bogossian.
Bonsoir Thomas.
Vous êtes humanitaire, fondatrice de l'ONG médicale Élise Care, ONG qui agit en zone de conflit. Vous êtes notamment déjà allée en Irak, vous êtes allée en Syrie. Et ce soir, vous êtes à Erevan, la capitale de l'Arménie. Élise Bogossian, vous êtes rentrée tout à l'heure du Haut-Karabakh. Qu'est-ce que vous y avez vu ?
En fait, je suis là depuis quelques jours et déjà la ville se vide complètement. Maintenant, plus personne. Si vous voyez les camions, ils sont remplis de lits, de canapés, de fauteuils. Les gens mettent toute leur vie en fait dans des camionnettes avec des espèces de sangles. Et c'est plein à ras-bord. Et puis il y a ces embouteillages sur cette petite route montagneuse. Et en fait, les gens disent adieu. En fait, ils partent pour toujours. Et puis ils ont perdu. On a tous perdu. On a perdu la guerre. On a perdu nos terres. Et les gens partent. Voilà.
Les gens partent, donc les Arméniens quittent les zones qui sont désormais sous contrôle azéri, c'est ça ?
Oui, oui, il y a des drapeaux azéris maintenant qui sont plantés et ils sont plus, les Arméniens ne sont plus chez eux. Et puis ils ne peuvent pas rester d'ailleurs parce qu'ils ne seront jamais en sécurité sous le joug azéri.
Ça veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui, ils redoutent une forme d'épuration ethnique ? Ils ont peur que les Azéris massacrent tous les Arméniens présents dans les zones qui leur reviennent, entre guillemets, aujourd'hui ?
Eh bien, ça fait 45 jours qu'ils nous massacrent. Ils utilisent tous les moyens pour nous massacrer depuis 45 jours, aussi bien des armes interdites que tout. En fait, on a eu la Turquie qui a coordonné et orchestré cette guerre. Et puis, comme ça ne suffisait pas, il fallait en plus des mercenaires et des djihadistes qui sont arrivés du Pakistan, d'Afghanistan, de Libye, de Syrie. Et puis, l'Azerbaïdjan qui a, elle toute seule, son le budget qu'elle a pour l'armement, c'est le budget de l'Arménie tout entier. En fait, on était dès le départ dans un rapport de force inégal avec... notre petite armée constituée de jeunes, avec des soldats volontaires qui étaient en fac de droit, en fac de langue, en fac de philo, qui étaient musiciens, artistes. Tout le monde est parti sur le front. Il y a des pertes effroyables. On a des blessés perdus pour toujours, qui n'auront jamais de vie normale. On va passer des années pour essayer de les réparer, mais les crimes subis sont irréparables. Alors, si vous voulez, lorsqu'aujourd'hui vous êtes vivant et que vous restez sur ces territoires-là, vous pouvez pas rester, c'est pas possible.
Vous parlez d'armes interdites, on entend parler en effet d'utilisation de bombes à sous-munitions, de phosphore. Vous en avez des preuves de ça ou pas ? Ou ce sont des rumeurs, ce sont des on-dit ?
Non, j'ai plein de photos et d'ailleurs je suis allée justement dans le Haut-Karabakh pour continuer le travail de documentation, notamment dans les hôpitaux militaires, puisque c'est là-bas que les grands blessés sont rapatriés, c'est là-bas que les grands blessés sont opérés et les armes à sous-munitions, si vous voulez, ce sont des armes, d'abord c'est interdit par la convention d'Oslo du 3 décembre 2008. Ce sont des armes qui, 100 mètres avant de toucher le sol, libèrent des centaines de mini-bombes qui sont comme des grenades, en plus de toutes les couleurs phosphorescentes qui explosent. Et lorsqu'elles n'explosent pas, elles restent dans le sol. Et c'est par un mécanisme à l'intérieur, il y a une centrale inertielle qui fait que la bombe, elle peut rester dans le sol. Elle n'a pas de date limite d'utilisation. Et puis le jour où un mois, deux mois, un an plus tard, si vous la ramassez, le mécanisme inertiel se remet en route et en fait c'est comme des mines antipersonnelles. Il y en a partout, des milliers de bombes ont été lâchées avec à l'intérieur chacune des centaines et des centaines de mini-grenades, des bombes explosives comme ça. Le phosphore, c'est encore autre chose, où là c'est une arme incendiaire mélangée avec des explosifs puissants qui provoquent des blessures très profondes, très étendues, très caractéristiques. Et on est en train de tout documenter justement parce que ça rentre vraiment dans la classification de crimes de guerre. Un véritable massacre, une épuration ethnique avec cette espèce de folie de vouloir comme ça réunir deux pays pour des intérêts, une soif de pouvoir. Et aujourd'hui, on se retrouve, nous, complètement coincés entre trois pays. On n'aura plus de frontières avec l'Iran, complètement coincés avec cet embargo qui va petit à petit nous étouffer si la communauté ne fait rien. Déjà, en ne faisant rien, on est arrivé à cette situation-là. Et l'étape suivante, qu'est-ce que ça va être ?
Est-ce qu'au moins ce cessez-le-feu est respecté ? Est-ce qu'au moins ces dernières heures, quand vous étiez encore au Haut-Karabakh, les combats avaient cessé ou pas ?
Oui, il n'y avait plus rien. Pour vous dire, j'ai même été réveillée par le chant du coq. Voilà. D'ailleurs, c'est très étonnant d'être réveillée par un chant du coq. J'y étais il y a quelques semaines et c'était des bombardements en continu 24 heures sur 24, deux jours auparavant encore. Et là, c'est surréaliste d'être dans cette ville avec ce silence et puis le coq qui vous réveille le matin.
Et les soldats russes qui sont censés assurer le maintien de la paix, le maintien durable de la paix, vous les avez vus, vous, ils sont arrivés déjà, les premiers sont arrivés ?
Oui, il y a plusieurs milliers de forces spéciales qui sont arrivées, des blindés russes qui sécurisent tout le corridor de la Chine, et puis il y en a aussi partout à Chouchi et dans le Haut-Karabakh. Oui, ils sont là et puis ils font respecter l'ordre.
Comment vous arrivez à travailler, vous, les humanitaires, les médecins aussi qui sont avec vous, dans quel état, entre guillemets, pardon de cette question, mais vous récupérez les blessés? C'est important de savoir exactement ce qui se passe.
En fait, ils sont, les blessés de guerre sont des blessés, ils sont dans des états critiques, ils sont tous dans des unités de réanimation. C'est simple, tous les hôpitaux de Yerevan sont saturés soit par le Covid, soit par les blessés de guerre. Et les blessés de guerre, ils sont défigurés, ils sont amputés, ils ont des fractures ouvertes, ils ont plus de jambes, plus de mains, plus de yeux, plus de nez, ils sont brûlés. Chaque lit, chaque chambre, vous avez des familles dans le couloir qui attendent. On a des quantités de blessés qui sont, ça c'est pour les jeunes soldats notamment, qui ont été défigurés. Et puis sous l'effet de l'explosion, ils n'ont plus de vêtements ni de documents d'identité. Donc on ne sait pas qui ils sont, ils sont numérotés. Et puis dans tout le pays, vous avez des familles qui cherchent désespérément à savoir si leur fils ou leur frère est encore vivant. Et donc on a des queues et des queues de familles dans les étages qui cherchent leur fils, leur frère. Et vous croisez leurs regards en continu et voilà.
Élise, on commémore l'armistice en ce 11 novembre ici en France, les horreurs de la Première Guerre mondiale. Et on a le sentiment, à vous entendre, qu'il se passe le même genre d'horreur aujourd'hui à nos portes. On en est vraiment là. C'est vraiment ça la situation.
Oui. Et puis on est face à une... en plus de ce qu'on vit, nous, avec l'Arménie, de cette montée des extrémismes, du djihadisme. On est en train de régresser. On n'a pas trouvé la bonne stratégie, je pense, pour arrêter ces guerres. Et voilà. En fait, je pense qu'on est capable. On sait identifier les problèmes. On sait très bien les analyser. Mais on laisse faire. Et le silence de la communauté internationale nous a vraiment tués.
Merci beaucoup Élise Bogossian pour ce témoignage. Vous êtes, je le rappelle, à Erevan il y a quelques heures encore. Vous étiez dans le Haut-Karabakh. Merci à vous et à votre ONG Élise Care qui intervient et qui agit sur place. Merci infiniment.
Merci Thomas.
À suivre, l'œil de Valérie Trier-Veller dans RTL Soir. Valérie qui va rendre hommage à un soldat qui ne lui était pas inconnu, un poilu qui s'appelait Camille Gauthier. Camille Gauthier, c'était son arrière-grand-père.
Thomas Soto, RTL Soir.